Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour à tous et bienvenue au Diplomate Podcast où on parle d'enjeux internationaux et sociaux. Ceci est le deuxième épisode d'une série qui s'intitule « Pour ou contre l'abolition de la prostitution ». Dans cet épisode, on va s'attarder aux conséquences réelles de la prostitution dans la vie des femmes. Et pour en parler, je reçois Marie-Michelle Whitelock. Elle va nous expliquer pourquoi la prostitution n'est pas un choix, mais plutôt un manque de choix. Bonjour Marie-Michelle.
Bonjour.
Toi, tu travailles pour Calax, Agression Estrie. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu ton poste et puis ce que tu fais exactement?
Oui, en fait, je suis intervenante au Calax Agression Estrie, mais au dossier exploitation sexuelle. Donc, je suis en charge de développer des services de sortie pour les filles et les femmes qui sont dans l'exploitation sexuelle.
Donc, c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, pour vous mettre en contexte, c'est pour ça que j'ai invité Marie-Michelle aujourd'hui. Bienvenue au podcast. Donc, j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu, dans le fond, ta position et celle de Calax, c'est que la prostitution, c'est une forme d'exploitation sexuelle. Puis vous luttez pour, dans le fond, abolir la prostitution dans le système politique, dans le système social dans lequel on vit. Pourquoi vous pensez de cette façon-là? Qu'est-ce qui vous motive à penser de la sorte?
Mais le Calax, en fait, là, est spécialisé dans les violences sexuelles. Donc, effectivement, comme tu as dit, la prostitution, mais tout ce qui entoure, en fait, un échange d'actes sexuels contre quelque chose, pour nous, c'est une forme de violence sexuelle. Pourquoi? Ben, on a commencé à constater, en fait, que plusieurs personnes qui étaient dans ce milieu-là, qui en sortaient, avaient malheureusement des conséquences qui étaient similaires à tout autre type d'agression à caractère sexuel. Donc, ça nous a préoccupés. Et en développant le concept de consentement, on s'est aperçu que, en fait, il y avait des contraintes sociales qu'on devait mettre dans le consentement, puis que les personnes qui étaient dans ce milieu-là souvent faisaient le faux choix d'être dans le milieu pour pouvoir subvenir à leurs besoins, mais que c'était des contraintes sociales de pauvreté qui les amenaient à faire ce faux choix-là.
Tu parles ici de faux choix. Dans le fond, on entend souvent l'argument que justement, la prostitution, c'est un choix, c'est le seul métier où est-ce que les femmes peuvent être réellement autonomes, libres de leur corps et qu'elles décident de faire ça pour elles-mêmes, pour, dans le fond, leurs propres raisons personnelles. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que vous avez déjà eu des filles, des femmes qui sont venues vous voir, qui étaient contentes d'être dans la prostitution, qui étaient assurées là-dedans de manière affirmative, puis que finalement, ça s'est avéré que c'était pas vraiment leur choix, que c'était pas vraiment ce qu'ils voulaient au fond?
Oui, bien, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. En fait, premièrement, il faut comprendre que la majorité des personnes qui sont dans le milieu de la prostitution, de l'exploitation sexuelle, elles sont contraintes par des individus, puis c'est pas un choix, c'est une majorité. Par contre, effectivement, il y a peut-être une minorité qui fait un choix éclairé à l'âge adulte pour subvenir à leurs besoins. Mais malheureusement, elles ne savent pas si elles vont avoir des conséquences à la suite de ça. On leur souhaite, mais pour la grande majorité, elles ont des conséquences.
C'est quoi les conséquences qu'on voit à la suite d'une femme qui s'est prostituée?
En fait, ça va être souvent des chocs post-traumatiques, donc l'hypervigilance, une anxiété généralisée, des cauchemars, manque de confiance, soit envers elle-même, mais aussi envers les autres. Beaucoup de problèmes de dépendance, donc soit à l'alcool, aux médicaments ou à toute autre substance là, de drogue, en fait. Là. C'est toutes des conséquences qui peuvent être associées à un passage dans la prostitution. Par contre, les femmes que je rencontre qui souhaitent sortir de la prostitution, c'est rare celles qui ne m'ont pas déjà dit, en fait, Marie-Michelle, c'est mon choix, ça paye mon logement, ça paye mon épicerie, etc. Parce que c'est une méthode de survie aussi. Pour pouvoir survivre à ce milieu-là, certaines femmes là, vont se convaincre que c'est pas si pire que ça, que ça, c'est de l'argent. Et elles ont aussi intériorisé le rôle de la femme de satisfaire les besoins sexuels des hommes. Donc, c'est pour ça qu'on nomme un faux choix. Mais dans le faux choix, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a l'âge d'entrée aussi dans le milieu. On parle d'autour de 14 ans, 15 ans. À cet âge-là, on ne croit pas, en fait, que tu es capable de faire un choix éclairé pour être dans l'industrie du sexe. Et une fois que tu y es rentré, c'est beaucoup plus difficile d'en sortir, là.
C'est vraiment jeune, 14 ans, pour rentrer dans l'industrie du sexe, mais c'est quoi l'âge le général moyenne? C'est quoi la plus grosse moyenne pour rentrer dans l'industrie du sexe?
Mais la moyenne d'âge, c'est 14 ans au Canada.
Oui, c'est si jeune que ça.
Oui, puis... Je vais le décortiquer un peu. Dans le fond, c'est pas nécessairement à 14 ans, elles le font de façon régulière à toutes les semaines. C'est à quel âge tu as fait tes premiers pas dans le milieu. Donc, les premières fois qu'une personne a échangé des actes sexuels contre quelque chose, la moyenne au Canada, mais aussi un peu partout là, dans le monde, c'est à l'adolescence, c'est à 14-15 ans. Et ça tend à descendre et non à augmenter là, comme moyenne.
C'est quoi qui pousse ces jeunes filles-là vers la prostitution? C'est quoi qui les attire?
Bien, il y a plusieurs chemins, en fait, là, qui mènent à la prostitution. Donc, tout ce qui est le recrutement avec un proxénète existe encore. Donc, le scénario qu'on dit un peu là, amoureux, pour ceux et celles qui ont vu Fugueuse, là, ça existe, c'est encore présent, c'est présent à Sherbrooke, un peu partout. Mais il y a aussi, en fait, là, toute une vague de jeunes filles qui désirent, en fait, devenir travailleuses du sexe et qui vont faire les premiers pas pour aller même se chercher un proxénète. En fait, elles vont parler d'un gérant, en fait, pour gérer les clients, gérer les annonces. Qui va désirer, en fait, devenir une escorte de luxe ou une travailleuse du sexe, là. Okay. Donc, c'est l'attrait de l'argent, l'attrait de la vie de luxe, en fait, qui les amène un peu là, à vouloir être dans l'industrie du sexe.
OK, la vie de luxe, mais est-ce que c'est-tu vraiment la réalité? Toi, de ce que tu vois sur le terrain, est-ce que c'est luxueux, la prostitution comme mode de vie?
Comme mode de vie à long terme, absolument pas. J'en connais pas, malheureusement, qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent vivre dans les hôtels, tout ça. Par contre, quand tu es jeune, quand tu es adolescente, on peut facilement te faire croire que oui, ça existe. Parce que les chemins qui vont te mener là, souvent, ben, ça va être des gros parties, effectivement, dans des hôtels. L'industrie, en fait, tu vas avoir des montants d'argent qui vont être quand même énorme dans tes poches pour cet âge-là. Donc, temporairement, elle peut exister.
Oui, j'avoue que, tu sais, quand t'es jeune, t'as pas encore une job qui te ramène beaucoup, fait que ça peut avoir l'air de beaucoup d'argent, effectivement. Par contre, est-ce qu'il y a pas aussi un effet de glamourisation, de comme cette idée-là que c'est tellement... que c'est un peu alléchant d'aller voir la prostitution pour ces raisons-là de... que c'est un mode de vie qui est luxueux aussi.
Bien, on dit souvent que c'est de l'argent facile. On l'entend souvent. Être travailleuse du sexe, c'est de l'argent facile. Moi, plusieurs femmes me disent que c'est de l'argent rapide. Mm. Puis après ça, les montants peuvent varier énormément si tu vieillis. Entre autres, tu vas être un peu moins... achetable, en fait, entre okay. guillemets. Tu vas valoir moins sur le marché. On va parler comme
c'est
une voiture. Là.
Oui, c'est l'impression qu'on parle de marchandises ouais. alors qu'on parle du corps des femmes. Là.
Oui, exactement. En fait, ça fonctionne comme ça. Quand on regarde les annonces, on voit des annonces de, justement, on va décrire les corps, on va décrire les actes sexuels offerts. Donc, ça ressemble effectivement un peu comme une voiture. Mais cette vie de luxe-là, comme je disais, elle peut exister, mais de façon temporaire. Là. Moi, okay. les femmes que je vois, malheureusement, elles ont des dettes. Elles ont des dettes à des individus, parfois, des dettes sur des cartes de crédit. Et le mode de vie n'a pas duré si longtemps. Même jeune, en fait, parce que pour celles qui sont contraintes aussi, il y a un gros montant d'argent qui part pour le proxénète, pour le chauffeur,
oh,
pour
oui.
la sécurité, en tout cas, pour plein de frais, en fait. Donc, il en reste beaucoup moins dans les poches là, de la femme en question. Et le mode de vie coûte cher. À un moment okay. donné, souvent la consommation va être présente aussi. C'est pas nécessairement un problème de dépendance, mais l'alcool, la drogue, ça coûte quand même cher, plus tout ce qui est les vêtements. Pour suivre ce style de vie-là, bien, il y a beaucoup de dépenses aussi qui passent sur, entre guillemets, l'argent que la femme va faire. Là.
OK, je comprends. C'est vraiment malheureux, mais on disait par rapport à... J'ai oublié ma question, mais c'était... les proxénètes, ils prennent combien de pourcentage par rapport au... C'est quoi le montant? Et comment une femme peut accepter que quelqu'un d'autre va prendre une grande part du travail qu'elles ont accompli?
Mais il y a plusieurs visages de proxénètes aussi. L'industrie du sexe puis la prostitution a plusieurs facettes. Donc, au niveau des proxénètes, mettons que je mets des grosses étiquettes, là, même s'il y a plein de nuances, tu vas avoir celui qui est très contraignant, là, très violent. Souvent, l'aspect amoureux est là aussi. Mais on a déjà vu des femmes qui n'avaient rien, en fait, qui étaient littéralement là, sous l'emprise totale d'une personne, d'un individu.
Oui, okay.
On a des femmes qui nous disent 50 %, on a des femmes qui nous disent 30 %. Donc, tu sais, ça varie de... 100 % à...
Ça varie du type de relation que tu as, de ce que je comprends.
Exactement.
Okay.
Et ça, c'est pour le proxénète qu'on voit, je dirais, là, plus dans des gangs, plus criminalisés. Mais il y a le proxénète que j'appellerais un peu plus là, dans la pauvreté, là, des chums qui vont se faire vivre, en fait, par leur blonde qui est dans l'industrie du sexe. Donc, ils ne paieront pas leur loyer, ils ne paieront pas l'épicerie, ils ne paieront pas l'Internet. Hein. Ils paieront rien.
C'est ta femme qui prend en charge?
Oui, c'est ça.
Mais
c'est
voyons.
En faisant des clients, elle fait vivre, en fait, le ménage. Donc, elle et son chum. C'est un type de proxénète aussi, mais on entend comme un peu moins parler. Et on a le type de proxénète qui est plus le vendeur aussi de drogue. Donc, qui va monter des bills à la femme, puis après ça, ben, elle va y devoir de l'argent. Donc, c'est une autre forme de proxénétisme aussi.
Que c'est ça, les dettes que tu parlais tantôt?
Entre autres,
oui. Ah, OK. C'est dommage. Ben, c'est vraiment malheureux que les deux sont comme entremélangés, consommation et prostitution.
Mais oui, malheureusement... comme je disais, la consommation fait partie de ce milieu-là. Que tu aies un problème ou non de dépendance, tu sais, c'est rare. Tu sais, l'alcool fait partie de la société. C'est rare qu'il n'y ait pas d'alcool dans un souper, dans une rencontre, etc. Mm-hmm. Donc, déjà, dans les bars, entre autres, il y a beaucoup de prostitution aussi. Donc, il y a plusieurs scénarios. Il y a des personnes qui rentrent dans la prostitution qui n'ont aucun problème de dépendance et qui vont en développer un dans le milieu. Il y a des personnes que c'est l'inverse, qui a des problèmes de dépendance déjà avant d'être dans le milieu et que pour payer sa consommation, ben, elle va décider, entre guillemets, d'aller vers la prostitution. Et il y en a qui ne consomment pas durant tout leur passage dans la prostitution ou qui consomment de façon raisonnable, là, okay. Sans problématique, mais qu'à la suite de ce passage-là, pour gérer les conséquences, bien, l'alcool ou les drogues vont devenir un moyen de médicament, enfin, une médication là, pour gérer les symptômes de choc post-traumatique ou autres. Donc, c'est rare que la toxicomanie n'est pas dans le portrait à un moment ou à un autre. Là.
Ah, je comprends. Puis, est-ce que le fait de dire que souvent c'est payant la prostitution, c'est un mythe? C'est parce que là, est-ce que quand les femmes vont justement une soirée, là, par exemple, une escorte qui va au restaurant puis qui a un client, est-ce que c'est elle qui dépense pour transport, restaurant, consommation? C'est quoi les dépenses habituellement qui sont prises en charge par les escortes, par les prostituées?
Oui, bien, ça aussi, c'est très variable dans le sens que souvent, dans une certaine sphère, ils vont avoir des chauffeurs puis ça, effectivement, c'est payé, c'est un pourcentage, en fait, qu'elle va devoir au chauffeur peut-être à son PIM qui gère ces clients-là,
okay.
Donc qui gère ce service de transport-là. Souvent, quand c'est un client qui va avoir une demande d'aller au restaurant, tout ça, c'est souvent payé, là, c'est dans le prix.
Okay.
Par contre, ça dépend tout le temps vraiment du client, de la demande, puis ce que la femme souhaite, entre guillemets. Là.
OK. Tu disais que c'était rapide aussi. C'était pas nécessairement payant, mais que c'est un mode de se faire de l'argent qui est rapide. Est-ce que c'est facile aussi de le faire? Est-ce que n'importe qui, du jour au lendemain, pourrait commencer à mettre des annonces sur Internet et ça fonctionnerait? Là, je dis pas ça pour encourager personne à le faire. Je dis vraiment pour essayer de mieux comprendre comment ces femmes-là embarquent dans un mécanisme de prostitution.
Mais en fait, on pense que oui, pour plusieurs raisons. Là. Déjà, si on demande juste à des adolescentes là, si elles se sont faites déjà demander d'échanger un service sexuel contre quelque chose, c'est proche la moitié qui va répondre oui. Mmh. Donc, déjà, on peut avoir la demande sans même avoir pensé offrir nos services.
Avant même d'y avoir pensé.
Puis sur Internet, entre autres, là, assez facilement. Puis sinon, effectivement, faire une annonce, c'est assez simple. Je veux dire, il suffit, là, c'est ça, de quelques photos, même pas, d'une description, puis tu vas avoir rapidement des demandes. Là. Donc oui, c'est rapide, c'est très, très rapide. Puis pour des personnes qui ont des problèmes financiers, qui, à la fin du mois, n'arrivent pas soit à payer leur logement ou à payer une facture, ben quand tu as déjà vécu des violences sexuelles, puis quand tu as déjà vécu la prostitution, bien, effectivement, c'est quelque chose qui te revient en tête facilement de « Ah, bien, mon 500 $ de facture, il serait réglé en une soirée. »
Ça serait fini. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont commencé comme ça en se disant « Hey, juste une fois, puis j'arrête, puis finalement, ils ont continué?
» Oui, en fait, certaines. Je me souviens d'une femme qui... justement, elle avait, entre guillemets, elle était adulte, là, elle était dans la début vingtaine, elle avait des gros problèmes financiers, elle avait pas vécu ça dans l'adolescence du tout. Elle s'est dit, bon, ben pour payer effectivement les frais scolaires, pour payer mes études, pour mon logement, bon, c'était peut-être pas juste une fois qu'elle s'était dit, mais c'était comme une fois que je vais avoir payé ces frais-là, ça va être fini. Puis finalement, elle a poursuivi. Elle a dit tout le temps, moi, j'ai été chanceuse, dans le sens que elle a poursuivi pendant peut-être un an ou deux, sans avoir de proxénète, tout ça. Mm-hmm. Et elle est sortie dès la première fois qu'elle a souhaité sortir, mais malheureusement, elle a eu des conséquences quand même pendant quelques années à la suite de ça. Là. Donc, oui, pour plusieurs, c'est « Ah, je vais faire ça jusqu'au moment... » d'avoir payé tel truc ou d'avoir assez d'argent pour faire tel projet. C'est 80% des personnes qui sont dans le milieu que quand tu leur poses la question « Est-ce que tu souhaites sortir? » Elles vont te répondre « Oui, mais. » Oui, okay. Mais quand je vais avoir payé mon logement. Oui, mais quand je vais avoir payé mes cartes de crédit. Donc, il y a une... Elle souhaite sortir, mais elle espère toujours avoir un montant d'argent là, pour avoir une qualité de vie.
C'est tellement triste parce que visiblement, ça part d'un problème qui est plus profond que ça. C'est la condition de ces femmes-là dans un système qui fait en sorte qu'elles sont pauvres, elles n'ont pas l'argent, elles n'ont pas les conditions économiques, peut-être pas l'éducation pour aller chercher un bon travail, puis qui vont prendre l'option la plus facile pour aller chercher de l'argent. Je trouve ça vraiment triste à entendre.
Mais c'est une des raisons pourquoi le CALACS a une position qui dit... On souhaite que la prostitution n'existe plus. On lutte contre les violences sexuelles, on lutte contre la prostitution parce qu'on oublie toutes les femmes qui sont aux intersections des oppressions, qui sont surreprésentées dans le milieu de l'industrie du sexe puis qui n'ont pas nécessairement de proxénètes. Donc là, on va penser entre autres aux femmes autochtones qui sont à Vancouver, là, qui, c'est presque 80% des femmes autochtones dans le milieu de la prostitution qui sont représentées.
C'est les plus vulnérables, dans le fond.
C'est les plus vulnérables, puis c'est ça, chaque personne va avoir des demandes différentes des clients selon ton apparence. On va juste sur les sites de porno, là, je dirais, quand ça concerne des femmes racisées, les titres de pornographie, c'est hyper dénigrant. Oui. Quand ça va être des femmes asiatiques, ça va être un autre type de demande, d'autres titres. Donc, on veut faire voir que ce système-là, le système de l'industrie du sexe, est hyper patriarcal, raciste, basé sur des inégalités, en fait, économiques. Donc, c'est pour ça que le CALACS dit, bien, ce système-là, c'est un système d'inégalité basé sur des violences faites aux femmes. Et on souhaite que ça n'existe plus. On sait qu'on ne connaîtra pas ça demain matin, mais comme on souhaite que toute violence sexuelle n'existe plus, on sait que ça non plus, on ne connaîtra pas ça demain matin. Mm-hmm. Mais nos interventions vont aller dans ce sens-là et non dans le jugement de la personne qui me dit des fois, « Marie-Michelle, aujourd'hui, je vais aller faire un client puis c'est mon choix parce que je manque d'argent. » On ne la jugera pas. Toute personne qui est dans le milieu, on comprend. Puis celles qui nous disent, « Bien, moi, j'aime ça. » Mais on lui souhaite juste que ça continue à bien aller dans son parcours de vie.
Tu as parlé justement de l'industrie du sexe. Je pense qu'il y en a plusieurs qui se demandent c'est quoi qui est considéré l'industrie du sexe? Est-ce que la pornographie, puis OnlyFans, ça rentre là-dedans aussi?
Ben, je ne sais pas si OnlyFans rentre spécifiquement dans l'industrie du sexe, mais t'sais, rapidement, moi, je dirais oui, là, dans le sens que l'industrie, c'est un commerce. Donc, c'est qu'est-ce qui est commercialisable. Donc, si on échange un acte sexuel contre de l'argent ou autre chose, et là, dans acte sexuel, je veux dire, ça peut être des photos nues. Il n'y a pas besoin d'avoir de contact nécessairement entre deux individus. Donc, ça peut être par vidéo, ça peut être par photo, tout ça, on l'inclut. Donc, oui, la pornographie est un gros pilier de l'industrie du sexe, mais OnlyFans pourrait y rentrer. On commence tout juste, en fait, à avoir des demandes d'aide de femmes, en fait, qui ont, pendant la pandémie, ouvert des comptes OnlyFans, en fait, qui étaient sous contrainte de leur conjoint.
OK, c'était pas leur choix, eux, dans le fond?
Non, pas dans les demandes d'aide qu'on a eues, en fait, où ce que là, pour essayer justement d'arrondir les fins de mois, elle devait là, s'ouvrir des comptes pour offrir des photos, tout ça. Puis après ça, c'est devenu des réelles rencontres et ça l'a poursuivi. Là. Puis on présume là, que probablement dans les prochaines années, on va avoir plus de demandes là, qui vont venir là, de cette période-là. Oui.
OK. Puis tu disais aussi que dans le fond, la plupart de ces filles-là ne font pas seulement un point. Comment, où est-ce que les gens commencent actuellement, puis où ça se termine en prostitution? Donc, c'est quoi le cercle vicieux là, que tu vois généralement?
Dans le sens d'un type, une sphère de l'industrie du sexe, quand tu dis un point?
Oui, c'est ça, la sphère de l'industrie, elle commence où?
Oui, mais les parcours sont quand même très, très différents d'une personne à l'autre. Mais... un qui, parfois, va décourager l'entourage, entre guillemets. T'sais, on peut voir le parcours où, ce que, malheureusement, une jeune adolescente est recrutée là, par un proxénète puis va être contrainte là, à avoir des échanges d'actes sexuels contre de l'argent ou qu'elle ne touchera peut-être même pas elle-même. Et là, bon, il y a toute une intervention souvent avec le centre jeunesse. Souvent, elles arrêtent pendant quelques années, mais à l'âge adulte, elles vont parfois y retourner, dans le sens qu'elles vont y retourner, mais va entre autres nommer « j'y retourne, mais jamais avec un proxénète ». T'sais, je me ferai plus jamais avoir comme quand j'étais adolescente, mais j'ai besoin d'argent ou je me suis fait des amis dans ce milieu-là, puis je suis restée en contact, puis je veux continuer. Et là, elle retourne de manière, entre guillemets, autonome, plus en étant escorte ou travailleuse du sexe là, dans les hôtels ou en ayant des clients. Et là, il va avoir certains patterns, puis il va avoir des sorties ponctuelles après. Donc ça, des fois, l'entourage est comme un peu... sous le choc en pensant que, vu qu'elle était sortie du milieu...
qu'elle y retourne.
Ouais, mais souvent, elle nomme, une fois que tu l'as fait, t'es déjà salie. Fait que le refaire est comme, entre guillemets, pas si pire que ça. Donc ça, c'est un parcours qu'on voit. On voit un parcours aussi de femmes qui... puis c'est sûr que je travaille pour le CALACS, donc ça teinte les parcours qu'on rencontre. Mais on voit certaines femmes qui ont connu l'inceste en bas âge, qui va y aller parfois dans une stratégie de vengeance.
J'ai de la misère à comprendre comment on peut se venger envers soi-même, t'sais, envers quelque chose qu'on a vécu soi-même.
Oui, mais c'est un peu... Quand j'étais jeune, il y a des gens que j'aimais qui m'ont agressé, puis bon, j'étais pas bien. Maintenant, je vais les faire payer... je vais leur faire
ils
payer.
Ils sont en contrôle?
Oui, exactement. J'ai beaucoup d'argent, ça va les... T'sais. Là, les hommes vont payer pour avoir accès à moi. T'sais. Avant, j'avais rien, je me faisais agresser gratuitement. Maintenant, je vais les faire payer. Mais malheureusement, rapidement, le mal-être est persistant, dans le fond. Souvent, souhaite sortir elle aussi, mais c'est un parcours qu'on peut voir, entre autres au CALACS aussi. Puis sinon, dans la crise du logement, présentement, on voit beaucoup de femmes, même adultes, comme échanger des actes sexuels pour une réduction de loyer, parce que c'est plus louable. Donc, on l'entendait avant.
on l'entendait il y a 10 ans quand même, sauf que là, c'est beaucoup plus fréquent de faire de la prostitution pour pouvoir payer son logement. Que ça
Donc
soit
le gouvernement se rend compte que c'est grave, la crise du logement.
Oui, oui. Ben, la pauvreté puis la crise du logement sont des parcours qu'on voit aussi fréquemment, autant pour l'entrée que pour le maintien. Il y a beaucoup de femmes qui, malheureusement, viennent au Calax, puis même nous qui essayons de faire des chemins de sortie, tant que le logement ne sera pas abordable, pour certaines femmes, je sais que ça va faire partie de leur vie une fois ou deux par mois pour pouvoir arriver, pour payer leur logement ou tout autre frais pour vivre, là, juste survivre, en fait, même pas vivre. Là, on parle des frais de base. Là.
C'est épouvantable. J'ai la misère encore. Mais il y a aussi, quand vous dites que vous avez cette position-là qui est abolitionniste, est-ce que d'un fond, on vous dit « Ah, c'est pas... » T'sais, c'est pas ouvert, c'est pas... T'sais, c'est un peu la glamorisation, puis le comme girl power, néolibéral, que c'est prendre possession de ses moyens, là, justement l'exemple qu'on vient de nommer, de contrôler son corps. Qu'est-ce que vous répondez à ceux habituellement pour essayer de défendre la position abolitionniste?
Ouais. Mais c'est vrai qu'on se fait souvent dire, ben écoute, on est... on reprend possession de notre corps. Par contre... mais moi, je pose souvent la question, quand on est dans une relation économique, celui qui paye, généralement, c'est celui qui décide. Dans le fond, il décide des actes sexuels que tu vas poser, même dans un contexte où ce que la personne respecte tes limites. Là. Donc, on va y aller, là, la personne ne fait pas de relation anale. Bon, le client accepte ça, ça va, mais il va quand même demander... pour ses besoins personnels, ses désirs. On sait que les relations sexuelles, hommes-femmes, hétérosexuelles, la découverte de la sexualité des femmes est quand même tabou encore, du
ça
plaisir.
Ça s'est fait tard aussi. Hein,
ça s'est fait tard aussi. Donc, même dans une relation qui n'est pas économique, on incite les femmes à mieux se connaître, à nommer leurs besoins, à nommer leurs désirs, à nommer ce qu'elles aiment. Là, si on rajoute l'argent... Ça me surprendrait beaucoup que dans une relation où ce que l'homme paie pour avoir une fellation, il va avoir vraiment l'exploration du corps de la femme puis la réappropriation de son corps à elle. Son corps va servir à satisfaire la demande de son client.
Oui. J'ai payé, fait que tu vas faire ce qui me fait plaisir à moi, puis pourquoi moi je te ferais plaisir, je te paye pour ça. T'sais.
Entre autres. Je sais que ça existe, là, qu'il y a des hommes qui paient pour faire jouir la femme.
Ah oui,
ça existe, c'est sûr. Sauf que, encore là, tu es dans une demande. Je veux dire,
c'est encore ce que lui veut ou ce que la personne veut, que
c'est
soit un homme ou une femme. Je veux pas dire qu'il n'y a pas d'hommes, je veux pas dire qu'il n'y a pas de femmes qui font appel au service de la prostitution. Il y en a certainement aussi. Il y a certainement des hommes aussi qui vont se prostituer. C'est sûr qu'on parle des femmes depuis tantôt, mais. J'imagine qu'il y en a aussi. En fait, il y en a, c'est juste qu'on n'en parle pas.
Exact, il y en a. Je vais finir ma parenthèse, mais fait on n'arrête pas de dire que dans le consentement puis dans des relations sexuelles égalitaires, c'est important la communication des deux, c'est important de se découvrir les deux, d'avoir une écoute. Mais là, quand tu rentres un aspect économique où ce qu'une personne fait des demandes puis que l'autre doit satisfaire les demandes, bien, la majorité du temps, tu n'auras pas une relation égalitaire. Ça ne fonctionne pas. Donc, la réappropriation du corps de la femme passe, entre autres, par avoir des relations égalitaires aussi. Donc, c'est un peu ce qu'on répond. Mais oui, il y a des hommes dans la prostitution. C'est généralement des jeunes hommes, en fait, ben des adolescents ou jeunes adultes. Et oui, il y a des femmes aussi qui paient pour des services sexuels, mais ça, c'est une très, très, très faible majorité. Même dans la prostitution masculine, c'est souvent des hommes qui vont payer pour avoir accès à des hommes, mais... tout noir, tout blanc n'existe pas, donc c'est sûr qu'il y a des femmes qui paient pour avoir des services sexuels aussi, mais c'est une minorité.
Donc, reste que les plus grands acheteurs de ces services sexuels-là restent des hommes?
Oui, que ce soit des hommes qui achètent des hommes ou des hommes qui achètent des femmes.
Bon, les statistiques parlent d'elles-mêmes.
Quand même.
J'ai besoin de dire.
Oui, mais c'est ça. Ça, c'est une belle représentation du système inégalitaire. Je veux dire, les hommes ont plus d'argent puis pensent avoir le pouvoir... d'exiger pour leurs besoins ou leurs désirs sexuels.
Mm-hmm. Je pense que c'est ça aussi que vous défendez beaucoup par rapport à l'opposition qui est de réglementer la prostitution. J'en ai parlé un peu ce matin avec Martine, mm-hmm. comme tu le sais.
Tu sais, la position du CALAC, c'est beaucoup sociale, dans le sens qu'on ne rentrera même pas tant dans les lois, dans le sens qu'on veut une loi qui représente effectivement ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est que ça n'existe plus, mais ce qu'on souhaite, c'est que les femmes aient aussi des services de sortie.
Mm-hmm.
De dire, si elle veut quitter ce milieu-là, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'on a socialement les leviers pour lui permettre de sortir? Un peu comme on a fait avec la violence conjugale. Je veux dire, on ne l'a pas encore enrayé, la violence conjugale. En tout cas, malheureusement, non. Elle
n'est vraiment pas enrayée. Elle n'est pas enrayée. Plein de féminicides aussi.
Mais un jour, la société s'est dit, ça existe, mais il faut, entre autres, dire, hey, c'est pas cool. Donc, effectivement, il y a un système de loi que si tu es accusé de violence conjugale, tu peux avoir des conséquences légales. Effectivement, nous, on veut un système qui dit hey, acheter des gens pour tes désirs sexuels, c'est pas cool. Donc, on aimerait qu'ils soient pénalisés, etc. Mais on veut aussi que la prostitution soit considérée comme une violence. Donc, là, on présume que le gouvernement ferait, bien, on va faire des chemins de sortie
mm-hmm.
pour ces femmes-là, pour ces filles-là. Parce que présentement, au Québec, même si on sait que la prostitution existe depuis vraiment longtemps...
Il y a toujours, quasiment.
Oui, bien, il n'y a pas de chemin de sortie. Oui. Je veux dire, on parle de moins de 5 hébergements au Québec pour les femmes et filles victimes d'exploitation sexuelle qui souhaitent sortir du milieu. On parle de moins d'une dizaine d'organismes qui se spécialisent dans ces services-là. Puis c'est nouveau. C'est pas, ça c'est date tellement pas.
Peu. C'est vraiment peu quand on y pense. On est quand même beaucoup au Québec. 5 organismes, puis c'est vraiment pas beaucoup. Vraiment. Puis j'imagine aussi qu'il y a des conséquences quand même quand on vient... Tu sais, au moins, c'est pas décriminalisé ici. Je veux dire, il y a quand même la seule chose qui est dans le fond... On protège les victimes, mais c'est même pas légal de solliciter des services, c'est criminel. Donc, le Canada a un point de vue qui va en faveur de votre position, si je peux dire comme ça, mais
ouais.
Il manque de services à la sortie.
Oui, mais c'est ça. On a comme un cadre légal qui va effectivement comme notre position. Tu en as parlé avec Martine ce matin. Les personnes qui sont prises dans ce milieu-là ne seront pas criminalisées, mais les personnes qui achètent des services sexuels pourraient être effectivement pénalisés. Mais on dirait que le système a comme un peu arrêté là. On s'en va dans une bonne lancée. On souhaite que ça continue. Là. Dans les 3 dernières années, il y a eu du financement pour développer certains services de sortie. C'est pour ça, en fait, que le CALAX là, consolide son projet qui devient quelque chose de récurrent présentement, devient quelque chose de permanent, chose qu'on ne savait pas il y a 5 ans. Mais là, on souhaite qu'il y ait effectivement du développement. Donc, il faut vraiment développer des services pour ces femmes-là qui souhaitent sortir parce que si elles n'ont pas un soutien même financier, là, ça bug un peu. Hein? On dirait que ça coupe.
Un petit peu. Il est seulement que ça fait tac-tac. J'essaie de diminuer le micro des fois.
Mais dans le fond, on souhaite que avec cette loi-là, il y ait de l'investissement pour la sortie. Puis on ne peut pas sortir de ce milieu-là si on n'a pas un soutien financier. Donc, tu sais, il y a des programmes qui existent de retour à l'école, de retour au travail, où ce que les gens peuvent avoir, ce qu'on appelle, entre guillemets, un aide sociale plus-plus. Donc, l'aide sociale, mais avec bonification, si tu es en démarche de recherche d'emploi ou tout ça. Mais on souhaite en fait avoir vraiment un programme de sortie de prostitution où ce qu'on va dire, bien, si tu t'engages puis que tu es en sortie de prostitution, bien, on va te donner un soutien financier, on va te donner bien, de l'hébergement sécuritaire et un accompagnement psychosocial pour comme t'accompagner dans ces démarches-là. Là, présentement, je veux dire, quand que moi, je vois les femmes, il y en a qui n'ont aucun revenu, il faut faire les démarches pour l'aide sociale ou ce que tu commences à la base de l'aide sociale, donc c'est environ 800 $ par mois.
C'est vraiment rien, 800 $ par mois.
C'est ça. Et tu n'as pas nécessairement de logement non plus. Bon, on est dans... Puis on n'a rien à leur offrir. On a notre accompagnement, on a... oui, on va chercher avec elles des logements, mais c'est quand même peu. Il faut vraiment une équipe derrière ces femmes-là pour les soutenir réellement à la sortie de prostitution.
vous, l'organisme Micalac, est-ce qu'il est financé? À quel point il est financé par le gouvernement?
Mais là, on est dans une belle vague, entre guillemets. Vive les dénonciations, vive les femmes qui ont pris la rue avec le hashtag MeToo. On a eu quand même des subventions. Donc, nous, on fonctionne par subventions qui sont la 80 % de nos subventions sont récurrentes. Donc, tu sais, elles n'augmentent pas nécessairement, mais on est assuré de l'avoir à chaque année. 20 % et c'est souvent celui-là en exploitation sexuelle. Il y a un 20 % je dirais, de subventions qui sont non récurrents. Fait que là, ça veut dire qu'on fonctionne sous projet. Donc, on a des projets sur 2 ans ou 3 ans. Et là, aux 2-3 ans, c'est réévalué, parfois refinancé, parfois non. Il faut retrouver une autre subvention. Donc, il y a un petit parti qui est précaire, mais il y a des organismes que je connais dans le communautaire là, qui, c'est 100 % de leurs subventions qui sont non récurrentes.
Donc, ça veut dire que l'organisme peut mourir du jour au lendemain?
À peu près. Puis c'est des organismes qui sont essentiels au CALAC. T'sais, si ces organismes-là n'existent pas, bien, les femmes que j'accompagne, ils n'auront pas ces services-là. T'sais, on ne peut pas tout faire. Le CALAC ne peut pas tout faire. Donc, si l'association des locataires n'existe plus, je vais avoir de la misère pour tout ce qui est logement. Si Action Plus, qui est la défense de droit pour les personnes sur l'aide sociale, n'existe plus, bien, je n'aurai pas les personnes qui soutiennent les femmes que je réfère pour remplir leur demande d'aide sociale pour, comme, quand il y a des injustices, être là pour les défendre. Donc, on a besoin de ce financement-là, mais dans le communautaire en général, pas juste au CALAC. On est chanceuse, on est contente, mais on souhaite que nos partenaires soient aussi financés de façon adéquate.
Je trouve ça vraiment bien que vous travaillez en partenariat avec d'autres organismes aussi. Ça fait vraiment une complémentarité pour les services qui est offert aux femmes qui en ont besoin.
C'est pas toujours facile. On se le cachera pas. Parce qu'on a aussi, là, je parlais de nos partenaires les plus... le communautaire, on a tout le temps plus une alliance. C'est plus facile, entre guillemets, mais pas tout le temps. Là. Il y a quand même des jugements puis des préjugés, des fois, qui fait obstacle à un travail d'équipe. Des organismes-là? Ben, oui, ça peut arriver. Là. Ah, oui. C'est comme tout être humain. Là. Des fois, il suffit qu'il y ait une personne, des fois, qui fait quelque chose, puis tu le juges. Puis là, ça fait un frein au partenariat. Mais on travaille aussi avec le service de police. On travaille aussi avec le système de justice ou le centre jeunesse. Puis parfois, là, justement, nos préjugés sont plus... des fois, sont plus ancrés d'une part et d'autre, là, de notre côté que de leur côté. Puis notre côté défense de droit peut déranger.
Ça peut déranger?
Puis c'est simple. On a un exemple, une femme en exploitation sexuelle qui... il y a eu des gros obstacles dans le système de justice, puis c'est la structure qui fait que...
C'est la structure qui a fait obstacle?
C'est dans le sens que le système de justice, c'est quand même un système qui reste inégalitaire, puis que même s'il y a des beaux changements qui se passent présentement, ça reste un système qui est lourd, puis qui sera pas satisfaisant à 100 % pour tout le monde.
C'est clairement lourd, hein?
Donc, elle, dans le processus judiciaire, il y a eu, selon le CALAC, des lacunes. Il y a eu des mauvais choix. Puis la femme a désiré aller dans les médias avec ces lacunes-là puis ces mauvais choix-là. Donc, on l'a appuyé. On l'a appuyé parce qu'on était d'accord avec ses réflexions. Puis on est un organisme de défense de droit aussi. CALAC, c'est Centre d'aide et de lutte donc contre les violences sexuelles. Donc, on l'a accompagné dans les médias. On a fait un communiqué de presse. Mais ça l'a, entre autres, dérangé les procureurs de la Couronne parce qu'eux, ils travaillent quand même dans ce système-là puis ils souhaitent que les femmes portent plainte. Puis là, il y avait l'impression un peu qu'en faisant cette sortie médiatique-là, ça ternissait un peu le système de justice.
OK.
Mais il a fallu jaser, t'sais, il a fallu dire, ben non, vous, on comprend que vous faites un bon travail, que vous faites de votre mieux, mais parfois, on a à dénoncer certaines lacunes, certains obstacles, puis on va continuer à accompagner puis à travailler avec vous, mais ça prend beaucoup de discussions, puis ça prend justement... essayer d'enlever nos préjugés puis dire, bon, ben oui, des fois, on dénonce des choses, mais on est capable de, dans, notre accompagnement, faire le mieux pour la femme qu'on accompagne avec des partenaires autour.
Ça n'enlève pas le positif non plus qu'ils font. Puis j'imagine que ça prend aussi ces dénonciations-là pour qu'il y ait du progrès à quelque part.
Bien, selon le CALAC, c'est selon moi, oui. Là.
Mais pas selon eux, visiblement.
Mais c'est sûr que tu as une position différente quand tu travailles dans le système, c'est que ça soit au service de police de Sherbrooke.
Il y a personne qui aime se faire critiquer son travail. Je peux comprendre le point au niveau juridique, puis aussi le fait de ne pas vouloir freiner les femmes à porter plainte. Mm-hmm. Mais en tout cas, liberté d'expression, puis aussi, il fallait que cette femme-là aille de l'avant avec ce qu'elle avait... comme façon de penser, puis sur le cœur aussi, j'imagine, ça doit être pesant pour quelqu'un.
Bien, à mon avis, je reprends un peu quand tu as dit « il faut dénoncer pour que ça l'avance », bien, autant, la dernière, il y en a eu d'autres, là. Il y en a plein d'autres, là, mais la mobilisation du hashtag MeToo, les mobilisations qu'il y a eu dans la rue par rapport à la culture du viol qu'il y a eu dans les dernières années, a clairement aidé un financement plus récurrent des organismes qui travaillent en violence sexuelle et a clairement aidé des changements au système de justice. T'sais, on parle de tribunaux spécialisés maintenant, où il y a des modifications tranquillement qui s'amènent. S'il n'y avait pas eu ces dénonciations-là qui ont été dans les médias, qui ont été dans la rue, on a entendu parler haut et fort, il n'y aurait jamais eu, selon moi, et un financement plus adéquat et un système de justice qui, tranquillement, se transforme. Selon moi, ce n'est pas possible. Il faut absolument qu'il y ait des personnes qui, peu importe le moyen qu'ils prennent, qui dénoncent les lacunes du système, sinon il n'y a rien qui avance. Là.
C'est vrai. Il faut qu'il y ait de la mobilisation, puis il faut qu'il y ait de l'annonciation pour voir du changement.
Puis c'est la même chose qu'on fait avec les femmes dans la prostitution, dans le sens que on ne juge pas les personnes qui sont dans ce milieu-là puis qui, temporairement ou de façon permanente, disent « Bien là, moi, pour l'instant, j'aime ça puis c'est un métier. » Mais par contre, socialement, moi, je souhaite que ça n'existe plus. Je veux dire, puis je pense qu'il faut en parler puis donner le micro, en fait, aux femmes aussi qui sont dans le milieu. Celles qu'on n'entend pas, on entend certaines, mais c'est rarement celles qui sont contraintes qui vont prendre le micro puis qui vont dire qu'est-ce qu'elles subissent là, au quotidien. Mm-hmm. Donc, pour arriver à faire des réels choix de sortie puis arriver à ce que la demande, donc que les clients en demandent moins. Moi, je souhaite en fait qu'il y ait moins de clients un jour, mais il faut leur offrir la sensibilisation à sa population-là aussi. Tu sais.
C'est vrai, tout à fait. Disons, en terminant, si tu devais t'adresser aux jeunes filles qui vivent des situations financières difficiles puis qui pensent à la solution de dire « je vais me créer un compte au Seeking Enrichment, je vais faire escorte pour quelques soirées, juste le temps de payer mes billes, justement, comme on parlait, ou je vais m'enligner dans cette direction-là, mais vraiment pas pour longtemps », mais qu'est-ce que tu leur dirais pour leur faire réfléchir aux conséquences que ça va avoir ou toutes les personnes qui disent « hey, c'est glamouring » ou tu sais, c'est comme... c'est de l'argent facile, c'est de l'argent bien gagné, ça, tu vas voir, c'est une solution qui est rapide, efficace.
C'est vraiment une grosse question. C'est vraiment une question difficile.
Je te demande une intervention, ouais, c'est vrai.
Mais oui, on la pose souvent, cette question-là. Mais en fait, moi, je pense que je mise vraiment sur quel type de relation tu veux entretenir dans ta vie. Genre, tu sais, tu veux quoi comme sexualité puis comme relation intime, parce que je pense pas que tu vas la retrouver quand il y a un échange de quelque chose. Donc, vraiment de réfléchir sur qu'est-ce que tu souhaites comme relation intime, puis vas-y, puis à la limite, en fait, je pense que moi, en tout cas, puis le CALAC te jugera pas par rapport au choix que tu vas faire. Puis j'ose que tu voudras rencontrer peut-être d'autres femmes ou sortir ou juste parler de qu'est-ce que tu vis. Hein, parce qu'il y a des femmes qui passent dans nos services pour ventiler sur leur quotidien. Mm-hmm. Ben, tu peux nous appeler puis on ne jugera pas aucun choix que tu vas avoir fait. Là.
C'est bien. C'est une bonne ouverture. J'apprécie beaucoup ta discussion, la réponse et ton ouverture face à toute la discussion qu'on a eue. Bref, merci beaucoup, Marie-Michelle, d'avoir été là aujourd'hui.
Ben, merci de ton intérêt sur le sujet. Il faut plus de gens comme toi.
J'espère que ça vous a donné envie, ceux qui nous écoutent, de vous intéresser un peu plus à ces conséquences-là, ces sujets. Peut-être lire un peu plus puis prendre position à ce débat-là. Donc, merci de votre écoute.
Merci. Ouais.